19h-20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Avec Frédéric Becbédé, mais surtout avec Patrick Besson. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Frédéric.
L'émission commence toujours par un portrait de l'invité écrit par l'animateur. Mais il est possible que l'invité interrompe l'animateur quand il lit son portrait pour corriger une connerie, par exemple. Ou ajouter un détail.
Ou ajouter une connerie.
Oui. Patrick Besson n'a pas eu le prix Nobel alors qu'il a raconté sa vie comme Annie Ernaux. Son défaut a peut-être été d'être plus drôle. Il est impossible de classer Patrick Besson. Il se dit communiste mais écrit au point. Il fut étiqueté nouveau hussard, mais ses auteurs favoris sont russes. Il est un romancier imposant, construit, puissant, mais aussi un pamphlétaire scandaleux, un critique imprévisible, un caricaturiste vipérin. Il sait aussi bien trousser un papier hilarant dans Égoïste que bâtir une intrigue historique crédible. La science du baiser en 1997 se déroule en 500 avant Jésus-Christ, Saint-Sépulcre en 2005 à Paris au XIIIe siècle. Les Frères de la Consolation, paru la même année, réunit deux frangins serbes au XIXe. Il siège dans plusieurs jurys littéraires, mais il est parfaitement incontrôlable et insupportable. Je peux en témoigner pour le côtoyer au Renaudot tous les ans. Surtout quand il vote pour sa femme, dont il a divorcé depuis. Bien fait pour lui.
On n'était pas encore mariés.
Ah bon, d'accord. J'ai compté, sa bibliographie compte 80 livres. Les auteurs aussi prolifiques en France se comptent sur les doigts de la main de Maurice Herzog.
Oui, mais il faut dire que j'écris depuis 50 ans, donc ça fait jamais qu'un livre et demi par an, ce qui est relativement peu, d'autant que certains de ces livres sont des recueils d'articles. Donc en réalité, la légende selon laquelle j'écris beaucoup est bien sûr fausse.
Fausse, mais enfin un livre par an, c'est déjà beaucoup par rapport à moi. Voilà.
Ah oui, mais par rapport à Simenon, Dickens et Balzac, c'est fort peu.
Et c'est autant qu'Amélie Nothomb, c'est vrai. Roman charpenté, Dara, 1985, Grand Prix du roman de l'Académie française, Julius et Isaac en 92, Les Brabants, Prix Renaudot en 95, Mais le fleuve tuera l'homme blanc en 2009. Alors je disais roman charpenté, mais aussi autobiographie, nouvelles, essais, recueil de chroniques, théâtre. Besson est un feu d'artifice, d'impertinence et de sincérité. Il est violemment tendre, comme tous les Slaves, à part Vladimir Poutine. On peut lui reprocher de se reposer sur ses lauriers depuis quelques années en publiant des livres plus légers ou des rééditions de ses vieux best-sellers, mais il est tout à fait capable de nous surprendre à nouveau avec un grand roman balzacien et porno. J'ai déjà rendu moult hommage à La femme riche, 1993, où un homme séropositif devient serial killer par la baise.
C'est l'un de mes rares livres pas autobiographiques.
Ainsi qu'à son chef-d'œuvre, sa promesse de l'aube à lui, 28 boulevard Aristide Briand, publié en 2001. Je relis aussi souvent son premier roman Les petits mots d'amour, 1974, publié à 17 ans.
Oui, en même temps que l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. Je tenais à rappeler.
Mais 17 ans, c'était comme Sagan quand elle avait écrit Bonjour Tristesse.
Oui, d'ailleurs, à l'époque, il y a eu une éclosion de primo-romanciers, mm-hmm. comme Jean-Marc Roberts, d'ailleurs, qui avait commencé à peu près au même âge, Bernard Barrancas et d'autres, Edith Dangerfield. Mais maintenant, on a l'impression que les romanciers commencent par faire des études.
Oui.
Et après, vers 27, 28 ans, voire plus tard, ils se mettent au roman. Mais ils apprennent ce qu'ils vont à la fac d'abord pour étudier ce qui a été fait avant eux pour refaire la même chose.
Mais c'est peut-être plus professionnel. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on recevait Geoffrine Donadieu qui est passée par un atelier d'écriture et qui a publié son premier roman à 30 ans, à peu près. Ouais. Donc je disais, Les petits mots d'amour, dans ce premier roman, on pouvait déjà débusquer le secret de son art. Patrick Besson fait croire qu'il est cynique pour que son romantisme nous surprenne. Il sait mieux qu'aucun de ses contemporains trouver la formule qui étincelle pour nous briser le cœur. Voilà, bonsoir Patrick Besson.
Je sais qu'il fera mon éloge funèbre de mon prochain suicide.
C'est déjà fait, j'aura plus qu'à rediffuser l'émission. Je lis dans le Figaro littéraire ce matin que vous quittez Grasset pour Albin Michel pour publier en janvier prochain.
Non, je publie chez Albin Michel le recueil de mes chroniques du Point. Donc il y a, oui. c'est un gros livre, hein, puisque c'est sur 10 ans, de 2010 à 2020.
Oui.
J'avais déjà fait un volume de entre 2000 et 2010, et là je continue.
Voilà. D'accord, oui, donc c'est une information que le Figaro littéraire...
J'ai toujours considéré, et je pense vous l'avoir dit plusieurs fois, qu'écrire dans un journal, c'était aussi important qu'écrire dans un roman.
Oui, bien sûr, moi je le pense aussi. Si on peut caser de la littérature en contrebande dans les grands médias, c'est mieux.
Et même en bande.
Oui, et chez Radio Classique, c'est ce qu'on essaie de faire ici même. Hein. Alors, vous venez ici notamment pour nous parler de votre dernier roman, Scène de ma vie privée, publié chez Grasset. Scène de ma vie privée, c'est un titre à la Drieu-La Rochelle.
Oui, à la Balzac aussi. Oui. J'avais trouvé ce titre, me disait quelque chose, et puis j'ai regardé dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que c'était un titre de Balzac. Donc j'ai changé...
Scène de la vie privée.
Voilà. J'ai changé le « la » en « masse » qui me permet d'échapper à un procès que n'aurait pas manqué de me faire Balzac.
Honoré de Balzac. Mais ce qui me surprend, c'est ce terme en dessous qui a écrit « roman ». Pourquoi « roman » alors que si c'est votre vie privée, donc c'est un récit.
Non, c'est la vie privée de mon personnage.
Ah, d'accord. Il s'appelle Lucien.
Voilà, c'est la vie privée de Lucien.
Donc c'est de la fiction.
C'est pas la mienne. Non, c'est un roman. Hein.
Oui. Oui, mais oui, Lucien est quitté par Zoé.
Célèbre préface à Pierre et Jean de Maupassant, où il se demande dans 50 pages qu'est-ce qu'est un roman et qu'est-ce qui n'en est pas. Évidemment, il donne pas la réponse parce que personne n'a jamais su ce que c'était vraiment qu'un roman. C'est pour ça qu'on continue d'en faire.
Il n'est pas impossible que vous soyez quand même tout petit peu inspiré de votre vraie vie privée pour écrire ce livre, mais cela ne nous regarde pas.
J'ai changé beaucoup de choses. Par exemple, mon personnage, il habite rue de Belgrade, alors que moi, j'habitais à l'époque rue de Bourgogne. Oui, c'est quand même très différent.
Oui, c'est vrai, ça change tout. Donc, Lucien est quitté par Zoé au bout de 3 années de mariage. C'est complètement copié sur L'amour dure 3 ans.
Et en effet, il dure 3 ans.
Oui. Mais l'amour dure 3 ans en général.
Mille et une nuits. 3 ans, ça fait mille et une nuits.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais vous aviez trouvé ça comment?
Statistiquement, dans tous les pays, il y a un pic des divorces au bout de 4 ans, après la 3e année. Et aussi, les biochimistes analysent que après 3 ans, il y a des hormones qui changent.
Ah oui, donc je suis parfaitement dans la norme en ayant divorcé. D'ailleurs, j'ai pas divorcé en me séparant après 3 ans.
Voilà, c'est ça.
Donc ça me rassure, hein, parce que je pensais être un peu à part, mais pas du tout.
Non, vous êtes quelqu'un de moyen.
Oui, de normal, je dirais, c'est moins vexant.
Sérieusement, je me demande si vous n'écrivez pas précisément les choses que vous ne pouvez pas dire à haute voix. C'est-à-dire que c'est un livre très mélancolique, très sincère, l'histoire de cet homme qui vit un désamour, une séparation amoureuse. Et c'est un livre très douloureux, très beau aussi, mais comment faire pour parler à haute voix ensemble pendant une heure d'un tel livre?
On avait posé la question à Modiano, il avait mis un certain nombre de minutes à répondre. Et ce qui ressortait de sa réponse, c'est qu'en effet, c'était exactement la raison pour laquelle on écrivait des livres. Parce qu'en fait, on pouvait pas les parler.
Oui.
On pouvait pas parler, on pouvait pas raconter, on pouvait pas se confier. Donc, ne pouvant pas me confier à une personne, je me confie à plusieurs milliers de personnes qui sont les lecteurs du livre.
Oui,
c'est plus confortable d'un certain point de vue.
Mais je pense qu'on on va être un petit peu embêté pendant une heure à essayer de parler d'un livre dont il est impossible de parler oralement. Il faut l'acheter et le lire, je crois que c'est ça. Et nous, on se quitte maintenant, au revoir, à bientôt.
Bon.
Non, je vais lire quand même une phrase, et puis vous essaierez de rebondir quand même. Page 13, vous écrivez « Le bonheur ancien m'étouffe, il me chasse du présent, m'interdit l'avenir.
» c'est-à-dire le bonheur ancien m'étouffait et il me chassait du présent. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire en fait.
En fait, ce que j'ai écrit est exactement ce que j'ai voulu dire.
Voilà, mais que je ne dis pas.
Oui, non, mais
je l'écris en fait. Voilà.
C'est bien ce qui m'embête. Non, c'est aussi un livre. Comme d'autres livres d'ailleurs, dont Performance de Simon Liberati, on a reçu Simon il y a quelques semaines, c'est un livre sur l'écart d'âge.
Oui, la différence d'âge. Oui.
Lucien a 52 ans quand il rencontre Zoé, qui en a 24. Oh. Il se revoit 10 ans plus tard, donc mathématiquement...
Donc elle a vieilli.
Et lui aussi. Et ils ont toujours cet écart d'âge, donc 52 moins 24, je suis pas bon en maths, mais ça fait une trentaine d'années d'écart.
Oui, alors vous devez le savoir, oui. Mais Charlie Chaplin avait 44 ans de différence avec sa dernière épouse. Mm-hmm. Donc on est encore loin de Charlot, là.
C'est vrai, mais c'est vrai que c'est. Alors c'est un livre sur cet amour entre deux générations. Zoé veut un enfant, Lucien refuse, et du coup, elle s'en va. Et ses deux copains, Eric et Guillaume, qui sont éditeurs. Eux, ils ont accepté de faire un enfant et leur femme est restée.
Ce que j'explique, c'est que les éditeurs sont plus intelligents que les écrivains, vu qu'ils publient des livres sans avoir besoin de les écrire.
C'est ça.
Et puis surtout, ils sont habitués à gérer des gens difficilement gérables, donc ça les aide énormément dans leur commerce avec les femmes, voire leurs femmes.
Et vous pensez que sérieusement, c'est ça la recette pour être avec une femme plus jeune, il faut lui faire un enfant.
Oui.
C'est ce qui m'est arrivé aussi, hein. Donc moi, elle est restée.
Oui, parce que vous sépariez ou non, quand il y a un enfant, vous êtes dans une certaine mesure inséparable. Donc c'est une recherche d'éternité, même si ça doit aboutir à une séparation ou à un divorce. Tant qu'il n'y a pas d'enfant entre un homme et une femme, il n'y a rien d'irréparable. Mmh. Donc je pense qu'il y a une recherche de l'irréparable chez ces dames.
Mmh. Et puis il y a une équation assez amusante, page 60, vous calculez, donc quand une jeune femme vit avec un vieil homme, elle a envie d'un bébé pour faire tomber la moyenne d'âge du couple.
Voilà, c'est ça, c'est le passage mathématique du livre.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si le type a 60 plus 25 étant l'âge de la femme, ça fait 85 divisé par 2, ça fait 42,5, alors que si on additionne avec un bébé de 1 an, par exemple, 60 plus 25 plus 1 égale 86 divisé par 3, 28 de moyenne. On a réduit la moyenne d'âge, en fait.
C'est imbattable.
C'est ça, voilà.
C'est un calcul parfaitement einsteinien.
Le couple jeune-vieux ne tient pas par manque de lumière enfantine, d'oxygène puéril. Voilà. Alors, vous avez choisi comme premier morceau musical Mozart, tout simplement. Hein, Mozart.
Oui, parce que j'avais prétendu dans un de mes romans qu'en écoutant l'intégrale de Mozart, on devait mourir à un moment ou à un autre à la fin. Mm-hmm. Et donc là, comme j'étais assez inoccupé après cette séparation, j'ai écouté l'intégrale de Mozart de A jusqu'à Z, quoi.
Oui.
Et donc ma théorie était fausse.
Vous êtes toujours là. Et donc ce sont les Noces de Figaro. C'était Patricia Petitbon, avec cette voix céleste, qui interprétait « L'O perduta me mesquina » dans « Les noces de Figaro » de Mozart. Et d'ailleurs, on va continuer à écouter Mozart, comme vous nous l'avez expliqué, pour pouvoir mourir dans 45 minutes. Alors, je parlais de scènes de ma vie privée avec Patrick Besson. C'est un roman qui est sorti cette semaine chez Grasset. Vous dites « L'amour n'est pas un sujet de roman, à moins d'échouer ». Ça fait penser un peu au début d'Anna Karénine.
Oui, en fait, les plus grands livres parlent toujours d'un échec, quel qu'il soit. Ça peut être un échec militaire, humain, un échec amoureux. Et c'est dans les petits livres ou dans les petits films qu'il y a une fin heureuse. Quoi. Les grands artistes savent très bien qu'il n'y a pas de fin heureuse.
En plus, il faut quand même qu'il y ait un événement. Cela dit, est-ce qu'il y a des livres sur le bonheur? Est-ce qu'il y a des grands romans sur le bonheur? Je ne sais pas.
Mais ils sont très rares, oui. En tout cas, dans la littérature russe, à ma connaissance, il y en a
aucun. Non, peut-être Chardon a écrit Le bonheur de Barbezieux.
Mais c'est pas spécialement. Je dirais que c'est plus le plaisir de Barbezieux. Il a mis bonheur parce que c'est un plus joli mot, mais c'est pas vraiment. Et puis Chardon n'était pas vraiment le peintre du bonheur. Au contraire, il était très sombre.
Mais c'est vrai que ça fait penser à le célèbre Incipit d'Anna Karénine. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse l'est à sa façon.
Oui, donc fournit un meilleur sujet au romancier qu'une famille heureuse. On n'imagine pas Anna Karénine si elle tombe pas sous le train.
Oui.
Tout d'un coup, ça n'a plus aucun intérêt. C'est un adultère banal qui se termine mal, mais sans plus.
Mm-hmm. Écriture qui évolue cette fois-ci. Vous avez dans ce livre une forme nouvelle. Vous dites à un moment, comme Aragon, les derniers livres d'Aragon, où il écrivait n'importe quoi dans le désordre. Mais c'est pas vrai, c'est pas n'importe quoi, et c'est plutôt ordonné, c'est-à-dire de manière chronologique dans l'histoire d'amour.
Oui, en fait, j'avais très peur de ça parce que les périodes se chevauchent et j'avais peur de perdre mon lecteur entre les différentes époques, les 3 ou 4 ans qui précèdent le Covid. Je voulais surtout pas qu'apparaisse le Covid, donc j'ai un peu changé les dates pour que ça se finisse avant que le Covid commence, parce que l'histoire de masque, de liquide, machin, c'était un peu possible. Et donc j'ai dû moi-même faire une chronologie hyper précise pour pas moi me perdre dans mon manuscrit, et surtout pour que mon lecteur se perde pas dans les époques.
Non, mais c'est vrai, on suit la déliquescence de cet amour, de la
ces amours, parce que les quatre couples au fond foirent quoi.
Oui.
Chacun à sa manière, d'une façon très dramatique quand il s'agit d'un chanteur qui est l'ami intime du narrateur, qui s'appelle Bob Horvat, Horvat qui est le nom de ma mère. Et les deux éditeurs s'en sortent à peu près, sauf qu'il y en a un qui quitte sa jeune épouse pour une ministre, mais il veut pas dire laquelle.
Mais ça, faut pas tout raconter, Patrick. Vous devez laisser le lecteur saliver un petit peu.
Oui, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant dans un livre, c'est pas la fin, c'est comment ça se déroule. Voilà.
Oui. Y a un moment d'ailleurs à propos de, c'est pas le Covid, mais à propos d'écologie, vous dites une chose. Qu'on me donne une seule bonne raison de sauver la planète.
Oui, parce que quand même, le nombre de drames, d'horreurs, d'atrocités qui se sont produites sur cette planète depuis qu'elle existe, hein, aussi bien entre les pays qu'entre les gens, qu'envers les animaux, on peut se demander en effet, est-ce qu'il faut absolument, je veux dire, que cette planète survive.
Donc vous êtes favorable
à... disait Paul Valéry, hein, ce qui vit, c'est ce qui meurt. Donc de toute manière, la planète, effectivement, est condamnée à plus ou moins terme.
Normalement,
plus ou moins long terme.
Oui, c'était plutôt prévu pour dans 5 milliards d'années, mais...
on est revenu à 3.
Ce sera peut-être dans 3 jours.
Et comme je l'ai écrit dans un autre de mes livres, de toute façon, à ce moment-là, plus personne ne saura que je ne suis pas passé à la postérité.
C'est vrai que c'est rassurant en même temps. Ce qui est embêtant, c'est de mourir alors que les autres continuent de vivre.
Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce serait mieux de mourir dans une grande catastrophe mondiale plutôt que tout seul à chaque fois, chacun dans son coin. C'est petit, quoi.
C'est égoïste. Enfin, c'est moche. Oui. Alors, je continue. Il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup plu. L'homme sans femme n'existe pas. Vous n'avez jamais songé à l'homosexualité, parce que finalement, vous n'avez jamais écrit un roman sans femme.
Non.
80 livres, il y a toujours une femme centrale.
Mais je pensais à ça l'autre jour dans le métro. Je me disais quelle malédiction en fait d'être sensible à la beauté féminine parce qu'elle ne s'arrête jamais. Et il y a des hommes qui ont bien de la chance et qui ne sont pas sensibles. Donc ils sont sensibles aux honneurs, ils sont sensibles à la recherche, ils sont sensibles à leur forme, à leur santé. Et ça leur fait pas grand chose de voir passer une très belle femme. Et pour celui qui est obsédé par la beauté féminine, la souffrance elle est permanente.
Oui, on est crucifié à chaque coin de rue.
Voilà. Oui. Et plus on avance en âge, et plus le clou est planté plus profond.
Mais bon, cela dit,
mais en même temps, c'est aussi quand elle passe que les femmes sont les plus magiques. Enfin,
oui, c'est quand elle vous échappe, quoi.
Oui, enfin, quand on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est donc c'est mystérieux. Donc, et puis la beauté a toujours l'air d'être le reflet de l'intelligence, même quand c'est pas le cas. Je veux dire, la beauté nous donne l'espoir d'un esprit, surtout quand on est obsédé par elle. Oui.
Oui, c'est qui a dit que c'était une promesse de bonheur, la beauté ? Je sais plus. Bon, on recherchera. Je continue de citer des extraits du livre, parce que comme vous avez du mal à en parler, puisque vous l'avez écrit, vous pouvez rebondir ou pas. « Les vieux doivent apprendre à vivre sans amour. C'est l'examen final avant le passage dans la classe supérieure, le décès. »
Oui, c'est exactement ce que je pense, donc c'est comme ça que je l'ai écrit. Oui.
Mais le principe des émissions littéraires, Patrick Besson, consiste à paraphraser son travail afin de le vendre aux masses.
Ah, voilà. D'accord. Voilà, je vais m'y appliquer. Hein. C'est vrai que bon, alors, en 80 livres, j'ai pas encore trouvé la bonne formule pour parler d'un de mes romans.
Non, je
pense pas qu'il y ait d'espoir en fait. On devrait renoncer parce que si j'y suis pas arrivé jusque là, je vois pas comment je pourrais y arriver brusquement aujourd'hui.
Continuons d'essayer. Peut-être que vous allez rebondir sur cette phrase de vous que j'adore, qui est page 49. Quand on est jeune, on croit qu'on peut tout faire. Vieux, on se rend compte qu'on n'a pas fait grand-chose. Non, il est d'accord avec lui. Il y a toujours pas. Ça va pas être possible. J'en ai encore une. C'est pas grave pour le plaisir de les entendre. Hein. Ah, vivre avec un éditeur, c'est comme vivre avec un écrivain. Impossible. Trop de papier, de mots, d'imagination. À force de dévorer ou de fabriquer des fictions, disparition du réel où on est censé vivre l'amour.
Oui, ça m'a été inspiré vraiment par l'héroïne de ce roman, quoi, parce que. Au tout début de notre histoire, je lui avais dit je veux pas qu'un manuscrit entre dans l'appartement parce que je sais qu'un manuscrit est beaucoup plus obsédant qu'un être humain, surtout quand on a la passion d'éditer. Et ça a duré un certain nombre de mois. Et puis un jour, j'ai vu arriver un manuscrit. Et là, je me suis dit bon, c'était
le début des problèmes.
C'est le début de la fin. Quoi.
Dès qu'il y a de la littérature dans un appartement.
Après, il y a eu deux manuscrits, trois manuscrits. Et après, on serait cru chez Françoise Verny, tu vois, aussi pour si ça dit encore quelque chose aux gens.
À quelqu'un. il y a, c'est vrai. Alors donc, bien sûr, c'est un roman, mais le héros est écrivain et sa femme est éditrice. Voilà, donc je précise. Sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez trouvé la meilleure phrase jamais écrite. On a enfin trouvé ce qu'il y avait dans la tête de 7 milliards d'humains, de la merde.
Oui, je ne saurais pas dire mieux.
Bon, plus sérieusement, vous n'êtes pas nostalgique.
Mais c'est un sociologue. Hein. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour savoir que les gens passaient leur temps à dire du mal les uns des autres. Il suffisait d'aller dans un café ou un restaurant et écouter juste ce que disait le voisin ou la voisine. Oui. Et en règle générale, 99 fois sur 100, c'était du mal d'une personne qui n'était pas présente à la table.
Oui. Ce que les réseaux sociaux ont permis, en fait, c'est un usage technologique de la malveillance et de la médisance. Quoi.
Voilà, ça c'est
Développement numérique, digital, instantané, mondial.
Oui, c'est très rare d'entendre quelqu'un dire du bien de quelqu'un. C'est presque, c'est miraculeux.
Ah si, moi je dis du bien de vous tout le temps.
Ouais, je devrais plus vous suivre alors.
vous n'êtes pas nostalgique comme Eric Neuhoff, notre ami. Vous êtes plutôt mélancolique. Expliquez la différence. Ha ha.
Oui, alors dans le cas d'Eric, en effet, il y a un amour profond du passé, de l'enfance, des souvenirs de famille,
des années 60,
vacances
70,
à Cadaquès, quand avec son papa et sa maman, son frère et sa sœur, quand ils faisaient du bateau.
Vous ne vous moquez pas là.
Là, je me moque.
Non, d'accord.
Non, je l'écris au contraire. Mais en plus, à une époque où il n'avait pas encore écrit sur son enfance, je lui ai dit tu devrais le faire parce que tu es un obsédé de l'enfance, du passé et de l'enfance.
Ouais. Mais c'est pas seulement le cas de Neuhoff, Modiano aussi. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains qui sont qui voient une beauté dans la nostalgie.
Bah ouais, à commencer par Proust, bien sûr.
Oui.
Ouais,
non,
Céline, pas trop. Il n'était pas trop nostalgique.
Non.
On m'aura crédit, tout ça, il n'y a pas beaucoup de nostalgie. Alors oui, la mélancolie, c'est difficile de... Bah, à partir du moment où on a décidé d'être gay, on peut être mélancolique, enfin gay, géri.
Est-ce que ce n'est pas aussi lié à vos origines croates ?
Oui, il y a une... Y a...
C'est des peuples, alors on fait des généralités un peu racistes, oui, alors, hein, mais oui, les mais peuples
les croix,
de l'Est...
Il y a eu un croix très célèbre, ça s'appelait le maréchal Tito. Hein, oui. Et en fait, c'est le seul homme politique du XXe siècle qui a tenu tête à Staline.
Oui.
C'est le seul, sur, dans toute l'histoire du stalinisme, à avoir dit à Staline, ben non.
Oui. Donc les gens mélancoliques sont plus courageux que les autres.
Non, je dirais qu'il a, il y a chez les Croates, hein, en tout cas chez Tito. Et un jour il écrit à Staline, il lui dit bon ça fait cinq bons hommes que vous m'envoyez pour me tuer. Et il n'y en a aucun qui a réussi. Alors arrêtez, parce que sinon moi je vais vous envoyer une personne. Et il n'y aura pas besoin d'en envoyer une deuxième.
C'est bien. C'est
donc
bien.
Voilà. Alors, quand on est capable de dire des trucs comme ça à quelqu'un comme Staline, on a un peu droit à la mélancolie.
Oui. C'est on dirait vraiment un dialogue d'un film de Scorsese. Hein. C'est extraordinaire. Alors, on continue avec Wolfgang Amadeus Mozart, un jeune compositeur autrichien. L'air du catalogue dans Don Giovanni.
Madamina. Il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio. Un catalogo è lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Germania 231. 100 in Francia e in Turchia, 91 ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, Marchesani, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Germania, 231. 100 in Francia, in Turchia, 91. Ma, in Spagna. Son già 1003. Tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età.
Ce qui est incroyable dans l'ère du catalogue de Mozart, c'est ce chiffre de 1003 conquêtes de Don Juan en Espagne. Alors que l'amour dure 1001 nuits, les conquêtes de Don Juan durent 1003 filles.
Ouais, moi je connais quelqu'un, mais je ne sais pas si on peut le citer, qui avait à peu près ce chiffre-là. Ouais. Et je pense que vous savez à qui je pense.
On va tout de suite changer de sujet et envoyer une page de publicité.
Secret de dirigeant, la saison 2 avec Céline Cajoulis.
On dit d'elle qu'elle est l'une des femmes les plus puissantes de la télévision. En 2001, elle a lancé Loft Story, puis Star Academy Première Génération. Elle est aujourd'hui aux manettes de Koh-Lanta, Fort Boyard et Miss France. Alexia Laroche-Joubert d'Adventure Line Productions est cette semaine mon invitée.
Secret de dirigeant, à retrouver dès le 6 octobre sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes de streaming habituelles.
MMA, Business Entreprise.
Benoît, vous êtes avec une commerçante dont la vitrine a été cassée. On imagine les conséquences.
Non, non, tout va bien. Son agent MMA est intervenu très rapidement. Ils vont prendre en charge le remplacement de la vitrine.
Oui, mais en attendant, la marchandise n'est plus en sécurité.
Si, MMA prend aussi en charge un service de gardiennage. Zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub.
MMA. Dans les limites et conditions prévues au contrat.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique sur un yacht ponant au design raffiné, je vous propose de visiter les sublimes fjords de Norvège avec Pascal Amoyal et Shani Di Luca au piano, Anna Göckel au violon, Emmanuel Bertrand au violoncelle et les voix de Chloé Chaume et Julien Dran pour explorer les romantismes du Nord. En mai, on fait ce qui vous plaît.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Découvrez Cinéma, le nouvel album événement d'Alexandre Tarot. Toute la magie et l'émotion des plus belles musiques de films par le pianiste Alexandre Tarot. Alexandre Tarot, Cinéma. Une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC et en écoute sur Deezer.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Oui, je suis toujours avec Patrick Besson pour Scène de ma vie privée, son nouveau roman publié chez Grasset. Et nous passons tout de suite à notre grand jeu, Devine tes citations. Je vais vous lire, Patrick, des phrases de vous. Et vous devez me dire dans lequel de vos 80 romans cette phrase apparaît.
Je savais que j'aurais dû en écrire moins.
Ensuite, je me rappelle mal. J'ai essayé toutes les histoires, j'ai peint tous les visages.
C'est le premier, les petits mots d'amour.
Le petit mot d'amour, 1974. Une autre. Un jour, je m'arrêterai de parler et de marcher.
Je sais les histoires, 1974.
Mais il les connaît par cœur, tous ces livres. Enfin, un auteur sérieux. Parce que vous savez que les autres, ils n'y arrivent jamais, hein, ils ne les trouvent pas.
Et parce qu'ils ne se relisent pas.
Parce que probablement, ils n'ont pas écrit leurs livres eux-mêmes. Oui. Alors, ça. Toute pluie, toute huître, tout oursin me rappellera toujours ce premier déjeuner de pluie, d'huître et d'oursin.
C'est pas Niceville ?
Non, Aldred.
Ah ouais, c'était trop dur ça. Aldred. Ouais, parce que je l'ai écrit en 3 jours chez Frédéric Berthet, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Oui, parce qu'en plus Frédéric Berthet ne buvait pas que de l'eau.
Ouais.
Ça n'aide pas. Mais alors j'ai une question d'orthographe. Toute pluie, toute huître, tout oursin me rappellera toujours. Est-ce que c'est pas me rappelleront toujours ce premier déjeuner de pluie, d'huître et d'oursin?
Ouais, si on appelait une amie à moi qui.
Oui, on a le droit d'appeler
qui
quelqu'un.
Qui a agrégé de lettres.
Non, parce que j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si on doit absolument mettre au pluriel ou pas. Je ne sais pas. Bon. Une autre phrase de vous. La femme de 25 ans est angoissée parce qu'elle vient de comprendre qu'il va lui falloir cesser de s'amuser et commencer à être heureuse, ce qui est plus difficile.
Ça doit être dans la paresseuse.
La femme riche,
oui, pardon.
1993. Ouais, mais vous excusez pas, c'est pas très grave.
Si, je suis confus.
Non. Mais c'est marrant parce que cette phrase-là, donc, ça traite le même thème que dans votre dernier livre, c'est-à-dire l'angoisse de la femme de 25 ans, quoi, qui se dit maintenant il faut construire, maintenant il faut que j'ai une famille, il faut que je.
Et encore, elle en a pas 40.
Non, mais non, c'est vrai. Et c'était il y a 30 ans, hein, la femme riche. Alors, une autre phrase. Le mariage, c'est être inséparable. L'amour, c'est être séparé.
Oui, je les connais, ces phrases, mais je sais pas où elles sont.
Ben non.
Ça doit être dans le milieu de terrain. Si vous me donnez l'année, peut-être.
2011. Il sait même pas quel livre il a publié en 2011, les gars. Non, mais c'est dans une chronique du Point, donc c'est introuvable.
Ça compte pas.
Non, si, ça compte, parce qu'elle est très belle, cette phrase. Le mariage, c'est être inséparable, l'amour, c'est être séparé. Mais oui, mais c'est pas impossible d'avoir les deux, je pense. On peut être tout à fait en couple et séparé de temps en temps, vous voyez, ne créer que non.
Ouais, il y a des arrangements entre amis.
C'est peut-être ça qu'il faut faire.
Entre amis.
Et enfin, une dernière. Cet air gentil et emprunté qu'ont les gens célèbres, comme s'ils s'excusaient en permanence d'être moins en forme que sur les photos.
C'est une belle-sœur.
C'est dans La femme riche, encore. Parce que c'est un de mes préférés. Non, je suis désolé. Fait... Non, vous avez trouvé les deux premiers. Bon, ça fait pas la moyenne. Non, ça fait pas la moyenne. Là, on a bien vu que vous aimiez les aphorismes. C'est quelque chose qui est dans tous vos livres. Il y a des formules, il y a des trouvailles. Et souvent, j'ai remarqué qu'on le reproche aux écrivains de faire trop de formules, trop de pirouettes. Et moi, je me dis, que ne le font-ils, ceux qui reprochent les formules? Que ne le font-ils?
Ouais, et puis c'est là dans lequel ont brillé un tas d'écrivains qu'on aime, hein, que ce soit Nietzsche ou Cioran ou d'autres. Donc, Est-ce que effectivement, c'est plus fin de d'exprimer une chose en peu de mots qu'en beaucoup de mots. On a quand même très peu de temps.
Oui.
On dispose de très peu de temps sur Terre. Donc, autant donner à lire aux gens des choses qu'ils peuvent lire rapidement.
Et vous avez eu, vous aussi, ce reproche, vous l'avez entendu, ça ? Oui, c'est un peu trop brillant.
Ben oui, c'est le moment où on est passé du style à l'écriture. Il y a eu le règne du style, de tous les écrivains qu'on aime, et tout d'un coup, c'est devenu l'écriture. Et là, on a commencé à s'emmerder sérieusement.
Alors, une autre rubrique de mon émission s'intitule « Biographème », mot très laid inventé par Roland Barthes. C'est d'essayer de réfléchir sur les aspérités de votre personnage public. Chaque écrivain a des biographèmes, par exemple. Eh bien, on vous a étiqueté comme le proserbe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a ennuyé? Ça vous a coûté quand même, sans doute, d'être tout le temps un peu scandaleux à cause de ça. Alors, je rappelle qu'il y a eu une guerre en ex-Yougoslavie à laquelle personne n'a rien compris. Mmh. Et vous avez plutôt dans le camp des Serbes.
Oui, enfin, j'ai jamais vraiment agressé aucune des autres nations composant la Yougoslavie.
Mais est-ce que cet engagement, finalement, c'est peut-être l'engagement...
Mais je sais pas, ce qu'on paye, on paye toujours un peu quelque chose, hein, où qu'on aille et quoi qu'on fasse. Donc, chaque écrivain, pour peu qu'il ait un caractère à part, et après tout, c'est ce qu'on demande aux écrivains, on leur demande pas d'être comme tout le monde, c'est pas la peine, tout le monde, on sait très bien ce que c'est. Donc, il y a toujours un prix à payer pour ce qu'on est. Moi, c'est l'une des choses dont je suis le plus fier d'avoir été avec eux, puis d'avoir été bombardé avec eux. En plus, j'étais bombardé par des missiles Matra, et Matra, c'est Hachette, et Hachette, c'était Grasset, c'était mon éditeur. Donc, j'ai pu dire que j'étais le premier écrivain à être bombardé par son éditeur.
Oui, c'est vrai que c'est rare, mais sérieusement, en plus, vous êtes d'origine croate, donc pourquoi soutenir le camp d'en face? Je ne comprends pas.
L'injustice et ma mère, je préfère l'injustice.
Et cette image d'écrivain à scandale, est-ce que ça vous fatigue, ça vous colle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Non, j'aime pas du tout le scandale, ni me faire remarquer, ni déplaire. Hein, mais ça se trouve que ça tombe comme ça, alors je suis bien obligé de faire avec. Quoi. Mais je me force pas, jamais. Quand j'ai pris ma carte du Parti communiste, c'était en plein anticommunisme national géré par les socialistes qui voulaient absolument se débarrasser à leur gauche du PC. Donc il y avait dans toute la presse de gauche ou de centre-gauche ou socialisante, il y avait des attaques répétées, permanentes, injustes. On comparait les communistes français aux nazis qu'ils avaient combattus et pour lesquels ils avaient perdu des dizaines de milliers d'adhérents. Donc c'était. Alors moi, ça m'a choqué à ce moment-là, mais j'ai pas fait du tout ça pour scandaliser, et puis je me suis étonné qu'on se scandalise après tout.
Mais c'est vrai que vous prenez quand même toujours souvent, vous avez un peu l'esprit de contradiction.
Je vois pas comment ne pas avoir l'esprit de contradiction. Marx disait la critique implacable de tout ce qui existe. Voilà, c'est un peu le rôle des gens qui tiennent une plume. Si c'est pour décrire le ciel ou les malheurs d'une lingère, c'est peut-être pas la peine.
Non, mais je veux dire que cette liberté d'expression que vous systématisez, que vous défendez, est-ce qu'elle ne se paye pas au prix d'une certaine solitude?
Mais c'est encore Camus qui disait il faut bien payer un peu.
Voilà, et bien donc voilà, vous avez répondu. Nous avons un morceau de musique choisi par vous à nouveau. Cette fois-ci, c'est dans le jazz. C'est Charlie Parker, The Bird. Et là, c'est en 1947 au Carnegie Hall. Thank you. Les drogués ont du talent. Charlie Parker, The Bird, au Carnegie Hall en 47. Pourquoi ce choix, Patrick Besson?
En fait, c'est le seul nom de jazzman que je connaissais. En plus, c'était pas le sien.
D'accord. Tout de suite, je suis heureux de vous recevoir pour Scène de ma vie privée, votre nouveau roman chez Grasset. Et j'apprends que vous venez de publier en Serbie, à Belgrade, livre sur Djokovic.
Ça a paru d'abord en France, c'est paru il y a quelques jours en France, qui s'appelle Djokovic le refus. Quoi. C'est dans une petite collection qui s'appelle Les Dissidents, chez un jeune éditeur, un nouvel éditeur qui s'appelle Louison, spécialiste dans l'édition de grands classiques russes, voire soviétiques.
Et qu'est-ce que vous avez... Vous êtes fasciné par Novak Djokovic?
C'est pas tellement ça, c'est que tout d'un coup, personne n'a compris... Pourquoi il voulait pas, il se mettait en danger dans sa carrière, dans sa vie de sportif, parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner contre le Covid. Et moi-même, d'ailleurs, je comprenais pas trop pourquoi il prenait un tel risque par rapport à ce qu'il pouvait perdre. Ce qu'il a perdu beaucoup de place à l'ATP et puis plusieurs millions d'euros, quoi, qu'il aurait gagné sinon. Et donc, j'ai fait ma recherche.
Une enquête.
Et j'ai trouvé, en fait.
Alors, c'est quoi la réponse?
Il faut lire le livre, bien sûr, mais la réponse, c'est que la façon dont il se perçoit, dont il se traite, dont il se soigne en tant qu'athlète de haut niveau, c'est-à-dire la rigueur, la discipline.
Il a des régimes alimentaires très spéciaux.
Voilà.
Je crois,
et donc, il ne peut pas, dans ce corps qui est quand même un corps absolument divin, d'un certain point de vue, corps qui n'est pas du tout le corps de tout le monde, il ne peut pas introduire un vaccin qui est en fait un virus, c'est le propre des vaccins.
Un vaccin à ARN messager qui en plus transforme l'ADN.
Je raconte dans mon livre que après une victoire contre Nadal, mais en 5-7 très très difficile, son éditeur, quel lapsus, son entraîneur lui dit tu veux quelque chose, et il répond j'aimerais bien un carré de chocolat.
Ah oui,
parce qu'en fait, dans son régime, le chocolat est absolument proscrit. Et il raconte, l'entraîneur arrive, alors il coupe un petit carré, toute la tablette, et il la mange et...
Voilà, c'est sa récompense.
Et il pleure.
Ah, il pleure.
Oui, alors c'est là où j'ai compris pourquoi c'est un type pareil, avec les efforts qu'il fait depuis presque 10 ans, il peut pas introduire dans son corps quelque chose dont il ne sait pas ce que c'est vraiment et dont il ne sait pas comment ça va évoluer.
Et nous, on l'a par contre introduit dans notre corps, le cœur léger.
Ah oui, parce que nous, on voulait absolument retourner dans les cafés. Et puis nous, on n'est pas des champions de tennis non plus. Moi, j'ai été pas mauvais, mais bon, pas à ce niveau-là.
Moi, j'ai un peu laissé tomber ma carrière. Shop Talk est la rubrique suivante. Alors, Shop Talk, ça veut dire parlons travail, parlons boutique. Est-ce que vous écrivez de manière disciplinée ou n'importe où, n'importe quand?
Quand j'écris un roman, j'écris tous les matins sur mon canapé.
D'accord.
En restant sale, comme dirait Houellebecq.
Est-ce que le matin, le cerveau fonctionne mieux?
Oui, d'ailleurs, par exemple, on dit que Balzac écrivait la nuit. C'est faux, il écrivait le matin. Mais seulement pour lui, le matin, ça commençait à minuit, parce qu'il se couchait à 6h. À 6h, et donc au bout, à 6-7h de sommeil, et il se réveillait, donc c'était une matinée pour lui.
Et Tolstoï, 4h du matin aussi, c'est à peu près logique.
Il se couche à 21h, il y a des écrivains je connais deux exemples d'écrivains qui travaillaient la nuit vraiment, c'est-à-dire Dostoïevski et... le deuxième, j'ai oublié.
Bah, peut-être Scott Fitzgerald.
Je pense. Ouais, le matin, c'est le meilleur moment.
Est-ce que vous écrivez différemment les articles de journaux et les romans, ou est-ce que c'est pareil?
Non, moi j'adore écrire les articles de journaux. À la limite, je dirais que la différence, c'est que j'ai plus de plaisir quand j'écris un article que quand je suis dans un roman. Mais d'ailleurs, un roman, on l'écrit pas vraiment, on le fait. Donc, les mots sont beaucoup plus lourds à porter, quoi. Et puis alors, quand on est dans un roman, on est encerclé par tout ce qui nous reste à faire et tout ce qu'on a déjà fait. Donc, on marche comme dans une espèce de défilé, là, comme on en voit pas dans les westerns. Mmh. Et on est un peu étouffé à la fois par le livre écrit et par le livre à écrire, quoi. Alors que, en effet, quand on écrit un article, c'est comme un sprint. Voilà, c'est un pur
comme
plaisir.
Un 50 mètres.
C'est un pur plaisir, quoi. Parce que c'est.
Alors moi, je sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que souvent, les meilleurs articles sont ceux qui sont écrits très vite, en 10 minutes.
Bah oui, c'est, en tout cas, c'est plus agréable quand ça dure 10 minutes que 3 heures.
Que 3 jours.
Non, mais effectivement, quand l'idée est très forte, ça va très vite. Oui. C'est quand l'idée est moins forte qu'on a tendance à traîner un peu dans l'écriture.
Sur vos 80 romans, il y a énormément de livres différents. Il y a des livres très documentés, historiques, qui se passent au Moyen-Âge.
Oui, en fait, il y a un certain nombre de périodes et de pays qui me fascinaient, oui. En fait, que ce soit le romantisme russe, le Moyen-Âge français, l'Antiquité grecque.
L'Afrique
aussi, ouais. Et parce que donc je me suis servi de mon stylo parce que c'est un instrument à voyager dans le temps et dans l'espace. Je pense que à chaque fois que j'étais dans une de ces époques, j'étais vraiment physiquement dans cette époque avec ce truc magique, cette clé magique qu'est le stylo.
Mais est-ce que vous avez
de la documentation? Ce que doivent ressentir beaucoup les auteurs de romans historiques. D'ailleurs, je pense que ça devient une espèce de drogue. Du reste, de pouvoir se transporter comme ça dans le temps et dans l'espace.
Oui, par exemple, Chantal Thomas, quand elle a écrit sur le 18e au château de Versailles, ben après elle est entrée à l'Académie avec un éventail. Vous voyez, c'est cohérent, quoi. Non, mais je disais ça.
Mais l'Académie, elle est encore sous Louis XIV.
Oui, c'est vrai. Mais je me demandais ça, enfin, parce que vous avez c'est des livres très très quand même qui demandent de la documentation. Donc dans ces cas-là, vous lisez beaucoup sur l'époque.
Ouais, c'est ça. Voilà. Puis je me déplace quand pour ce qui est de mon roman africain, là, mais le fleuve Tueur à l'homme blanc, j'ai fait plusieurs longs séjours au Congo. Où se passe le livre.
Et pour Julius et Isaac, comment vous faites, par exemple, pour être à Hollywood dans les années 50?
Ouais, c'est pas très dur. Hein. On a les films, on a les mémoires, on a les photos, c'est pas. Et puis surtout, les gens sont pas très différents d'une époque à l'autre. Ils ont à peu près presque toujours les mêmes ressorts, qui sont l'intérêt, la passion, le désir, le désespoir, l'envie, etc. Donc.
Vous pensez vraiment que, par exemple, dans l'Antiquité, 500 ans avant Jésus-Christ, les gens étaient exactement pareils?
Bah oui, parce que sinon, on pourrait plus lire l'Iliade, on pourrait pas lire l'Odyssée, on pourrait pas lire Sénèque, on pourrait pas lire tous les gens qui nous ont précédés. C'est bien qu'il y a chez nous tous, les lecteurs comme les auteurs des œuvres, quelque chose de semblable.
Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous, Patrick Besson. C'est une chanson que vous adorez. Vous l'avez écrite, c'est une chanson que vous adorez. On l'écoute.
Je ne t'entends pas très bien, il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où viens ce besoin si pressant d'écouter soudain les poules ratent-elles des dents? Ma voix t'a-t-elle manqué après bien tant d'années? Ce serait une belle journée et il n'y en a pas tant. Je sais me contenter de petites choses à présent. On enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment. Tu assures mon humeur, encore des effets. Je ne dois rien, j'ai eu un mal au chien à me faire à cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'en sais gré? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Je vis seul pour l'instant, mais je ne suis pas pressé. Tu sais, je prends mon temps. Tout est si compliqué, tout me paraît si différent. vie en continu seulement. On dort moins bien la nuit, on écoute patiemment de la maison les bruits du dehors, les fondements. Je vais bien, cela dit, appelle-moi plus souvent si tu en as envie, si tu as un monde. Mais il n'y a rien d'écrit et rien qui oblige. Mais tu ne me dois rien. J'ai eu un mal de chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'au moins tu m'enseignerais? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois
toujours avec Patrick Besson. On vient d'entendre une de ses chansons préférées.
Tu ne me dois rien.
Tu ne me dois rien, de Stéphane Escher.
Écrit par Philippe Dian.
Oui, c'est vrai. Et c'est très émouvant.
Oui, parce que c'est une chanson de la rupture, mais la rupture un ou deux ans après. Et le temps et le chagrin sont passés sur le chanteur. Mm-hmm. Et elle l'a rappelé. Il ne sait pas trop pourquoi, mais ils ne se sont pas dit grand-chose. Et en même temps, il aimerait bien qu'elle le rappelle de temps en temps. Quoi. C'est rester amis en même temps, ne pas l'être, ouais, avec quelqu'un qu'on a aimé et qui vous a aimé.
C'est comme ça que se termine Scène de ma vie privée, votre nouveau roman, avec des retrouvailles amères, je dirais. Enfin, voilà.
Mais il découvre que la femme qu'il aimait a disparu. Elle a cédé la place à une femme qui ne l'aime pas, donc une autre femme. Oui. Donc il se rend compte qu'il n'est pas séparé, qu'il se rend compte qu'il est veuf. Parce que la femme qu'il aimait est morte, a été remplacée par une femme qui ne l'aime pas.
Merci beaucoup, Patrick Besson, pour cette heure passée en votre compagnie. J'avais écrit une conclusion, alors je vais la lire. Longtemps, Patrick Besson m'a façonné. Je voulais lui ressembler presque physiquement en imitant ses lunettes cerclées de fer et en chipant ses tournures aphoristiques. Comme Billy Wilder avec Lou Beach, quand je suis en panne d'idées, je me demande toujours, que ferait Patrick ? Cependant, je n'ai jamais pu être aussi libre que lui, car cela implique un courage que je n'ai pas. À présent, nous sommes de vieux complices. Je sais qu'il ne sait pas plus que moi ce qu'il a voulu exprimer durant toutes ces années. Relisant les petits mots d'amour, je comprends que tout était annoncé depuis le début. La douceur du désamour, le chagrin et le sourire indispensables pour continuer malgré la mort. Voilà. Je rajouterai aussi, ensuite je me rappelle mal, c'est la première phrase du premier des 80 livres de Besson, c'est peut-être aussi sa conclusion définitive. Merci beaucoup Patrick Besson.
Merci Frédéric.